Oikonomia 3, deuxième partie, finances, point 2, dépenser l'argent. Avec drainer l'argent, nous avons vu comment l'argent arrive dans tes comptes. À présent, avec dépenser l'argent, nous verrons comment l'argent sort de tes comptes. Commençons donc par parler du budget, le document qui aide à prévoir les entrées et planifier les sorties d'argent mois après mois. Nous avons vu précédemment qu'au plan financier, tu es dans l'une de ces trois catégories. Pas assez, juste assez, plus qu'assez. En fait, le budget est l'outil qui te présente ta situation pour chaque mois. En effet, ton budget présente d'un côté les sources de revenus et le montant que chaque source rapportera pour le mois. De l'autre côté, ton budget présente les différentes lignes de dépenses par lesquelles l'argent sortira dans le même mois. Ainsi, le rapport entre le total des entrées et le total des sorties te donne l'état de ton budget. Ton budget est déficitaire si les entrées sont inférieures aux sorties. Cela voudrait dire que tu dépenses plus que ce que tu gagnes. Tu es alors dans le pas assez et tu es probablement endetté aussi ou dépendant de dons. Ton budget est équilibré si les entrées sont égales aux sorties. Et cela veut dire que tu dépenses entièrement ce que tu gagnes. Alors, tu es dans le juste assez et gare aux imprévus. Ton budget est excédentaire si les entrées sont supérieures aux sorties. Cela veut dire que tu dépenses moins que ce que tu gagnes et que tu te situes dans le plus qu'assez. Il t'est donc possible d'aider ceux qui sont dans le besoin et de jouir de ton abondance. Autrement, sans budget, ton argent circulera comme les eaux de ruissellement. Les eaux de ruissellement, ça trouve toujours un chemin et après, tu te demandes par où c'est passé. Ton budget mensuel jouera donc le rôle de canalisation à chaque pluie d'argent, grande ou petite. Dans la suite de cette étude, nous aborderons les points suivants. D'abord, être de la maison du plus cassé, mais vivre le pas assez et le juste assez. Ensuite, nous verrons savoir dépenser.
Ce message de Paul Julien et Marie-Laure Braga vous est gratuitement servi sur le site epplaparole.com et sur l'application EPP La Parole dans Play Store ou App Store.
Voyons donc être de la maison du plus qu'assez, mais vivre le pas assez et le juste assez. La parabole du fils prodigue en Luc 15, versets 11 à 32, raconte l'histoire d'un père prospère avec un fils prodigue, c'est-à-dire gaspilleur, et un autre fils parcimonieux, c'est-à-dire qui se contente du juste assez. Il a de l'abondance car chez lui, même les employés, comme dit Luc 15, verset 17, ont du pain en abondance. Mais le plus jeune fils se retrouvera dans le pas assez alors que l'aîné a toujours vécu dans le juste assez au milieu de son abondance. Il est écrit, le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Luc 15, versets 12 à 14, lu dans la version Second 21. Voilà comment les désirs insensés absorbent tous les biens du fils gaspilleur. Alors le besoin le ramène, affamé et repentant, dans la maison de son père, dans l'abondance. Cependant, son aîné qui n'est jamais parti de la maison se plaint de n'avoir jamais goûté cette abondance, contrairement à son petit frère qui, lui, n'a pas su dépenser sa fortune. Parlons justement de savoir dépenser. Remarquez que lorsque la famine s'est abattue sur son pays de résidence, le fils gaspilleur n'avait aucune réserve pour y faire face. Certes, ses besoins avaient été couverts jusque-là, mais il a gaspillé dans les plaisirs ce qui aurait pu constituer une épargne ou des investissements. Or, tes entrées d'argent devraient sortir par ces trois voies-là. La première voie, besoin ou charges courantes, la deuxième voie, épargne, et la troisième voie, investissement. En outre, les dons constituent une quatrième voie de sortie d'argent, mais nous l'examinerons séparément dans l'étude « Donner l'argent ». Commençons donc par la première voie de sortie de ton argent, les charges courantes. Par charge courante, on entend l'ensemble des besoins de base à satisfaire pour soi-même et pour les siens. Les Écritures les résument dans l'expression « la nourriture et le vêtement ». On retrouve cette expression en Luc 12, verset 23, Matthieu 6, verset 25, 1 Timothée 6, verset 8, Exode 21, verset 10, Deutéronome 10, verset 18, Josué 9, verset 5 et Ésaïe 23, verset 18. Comme soins essentiels, on pourrait ajouter à la nourriture et aux vêtements le logement, les frais de santé et d'hygiène, les frais d'éducation, et il va de soi que les frais essentiels pour continuer ton travail entrent dans cette catégorie. Dans le cadre familial, ces responsabilités sont très importantes car il est écrit « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. » 1 Timothée 5, verset 8. Question pour toi donc à ce stade, comment la budgétisation mensuelle t'aide à gérer tes charges courantes? Après les charges courantes, passons à présent à la deuxième voie de sortie de ton argent, l'épargne. Épargner est l'un des trois modes de gestion de l'argent qu'on voit dans la parabole des talents. Un autre mode de gestion est thésauriser, c'est-à-dire cacher l'argent dans un trou, Matthieu 25, verset 25, ou le garder dans un linge, Matthieu 19, verset 20. Certains utilisent les dessous de matelas, un canari ou des chaussettes pour thésauriser. Le troisième mode de gestion qu'on voit dans la parabole des talents, c'est investir, c'est-à-dire faire valoir et gagner plus, Matthieu 25, verset 16 à 17. De ces trois modes de gestion de l'argent, l'épargne est le moindre mal pour augmenter son avoir. Autrement dit, dans la parabole des talents, thésauriser constitue une perte. Épargner aurait ajouté un faible intérêt au dépôt. Investir a multiplié le capital, ce que l'épargne ne peut pas faire aussi vite que l'investissement. Cependant, épargner est un excellent outil pour préparer des réserves à utiliser pour des charges courantes dont le temps n'est pas encore arrivé. L'épargne s'utilise ainsi pour des projets futurs ou des urgences prévisibles. Pour autant, il ne faut pas tomber dans le piège de l'épargnant insensé de la parabole en Luc 12, versets 16 à 21. Il est écrit, « Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Cette parabole nous permet de comprendre que le but de l'épargne, selon Dieu, ce n'est pas de vivre une vie de rentier égoïste et paresseux. À ce propos, un autre rentier que nous avons déjà rencontré, le fils prodigue, s'est trouvé démuni face à la famine. Il a gaspillé ses biens et se retrouve sans réserve pour les mauvais jours. Pourtant, il aurait gagné à s'inspirer de la fourmi prévoyante, selon qu'il est écrit « Regarde la fourmi, paresseux, vois comment elle se conduit et tu deviendras un sage. » La fourmi n'a pas de chef, ni de surveillant, ni de patron. Pendant la bonne saison, elle amasse de la nourriture. Au moment de la récolte, elle fait des réserves. Proverbe 6, versets 6 à 8, version Parole de vie. À propos de réserves, certains croyants mal avisés pensent que c'est contraire à la foi. Or, par exemple, cela faisait partie des ordres de Dieu à Noé en vue des jours mauvais du déluge. Il dit à Noé, « Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. » Genèse 6, verset 21. De même, Dieu a distingué Joseph en Égypte par la révélation sur la gestion des réserves du temps des vaches grasses pour les temps des vaches maigres. Notez que ces deux expressions françaises, « temps des vaches grasses » et « temps des vaches maigres » sont inspirées de Genèse 41, versets 1 à 57. En outre, l'Éternel avait ordonné au peuple d'Israël dans le désert de faire des réserves de nourriture pour le sabbat. Il est écrit, Moïse leur dit, C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour de repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Exode 16, verset 23. Et même Dieu fait des réserves pour les temps d'adversité. C'est l'Éternel lui-même qui en parle à Job. Il s'arme littéralement pour les batailles futures. Il est écrit « Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille ?» Job 38, verset 23. C'est donc se conformer à la sagesse de Dieu que d'avoir des réserves pour les temps mauvais. En revanche, en Matthieu 25, versets 1 à 13, on voit le manque de prévoyance faire rater l'essentiel aux cinq vierges folles. Cette parabole du royaume qui appelle à la vigilance pour le retour du Seigneur a aussi des applications pour la vie de tous les jours. En effet, la différence entre les vierges sages et les vierges folles, c'est que les sages avaient des réserves d'huile. Elles étaient donc prêtes à surmonter les contretemps. Et pour les vierges folles, plus tard est devenu trop tard. Or, comme l'atteste Proverbe 21, verset 20, lu dans la version Semeur, « Dans la demeure de l'homme sage, on trouve de précieux trésors et des réserves d'huile, mais l'insensé dilapide ce qu'il a. » Alors, question pour toi, as-tu des réserves pour les événements prévisibles et pour les mauvais jours? Finissons à présent cette étude avec la troisième et dernière voie de sortie de ton argent, les investissements. Une partie de ton épargne peut être investie et multipliée à travers des opérations qui ont pour but d'augmenter tes avoirs. L'investissement est le canal par lequel tu fais travailler la ressource argent pour les centres d'intérêt qui te tiennent à cœur. Sur cette base, donner l'argent, qui est la prochaine étude, est aussi un investissement. Investir et donner sont, par exemple, deux éléments du profil de l'épouse vertueuse qui est recommandé au fils et prince bien-aimé en Proverbe 31. Il est écrit « Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Et plus loin, elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. » Proverbe 31, verset 16 et verset 20. Dans les paraboles ci-dessous, sur le royaume des cieux, le Seigneur Jésus-Christ décrit une opération d'investissement au niveau de risque le plus élevé. Il est écrit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. » Matthieu 13, versets 44 à 46. Les investisseurs peuvent tirer de ces paraboles de précieuses leçons sur les risques et les rendements pour les investissements dans le ciel et sur la terre. Voici encore quelques autres considérations importantes pour les investissements. Première considération, prenez conseil auprès du Seigneur, des saints et des spécialistes eu égard à vos investissements, conformément à Proverbe 3, versets 5 à 8, Proverbe 15, verset 22 et Proverbe 24, verset 6. Deuxième considération, se porter garant n'est pas un investissement, mais un faux pas. Proverbe 17, verset 18, lu dans la version Semeur, dit « Seul un homme dépourvu d'intelligence s'engage et se porte garant des dettes d'autrui. » Il est aussi écrit « Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous toi ?» Proverbe 22, versets 26 à 27. Troisième considération, l'usure n'est pas une option. Proverbe 28, verset 8, lu dans la version Semeur, dit « Celui qui augmente sa fortune par un intérêt usurier amasse des biens pour celui qui a pitié des pauvres. » Quatrième considération, quelques branches d'investissement que tu pourrais envisager sont la banque assurance pour des placements à terme garantis, le business pour la création d'entreprises ou la prise de participation dans des entreprises créées par d'autres, les biens immobiliers divers, c'est-à-dire des terrains, des bâtiments, des objets de collection, etc. Et puis la bourse, le marché des actions et des obligations qui s'appuie sur l'économie réelle. Cinquième considération enfin, il s'agit de la différence entre revenus actifs et revenus passifs ainsi que les implications de cette différence pour tes investissements. En effet, certains de tes investissements exigent ton implication continue dans une activité qui ne va pas rapporter si tu ne travailles pas. On parle alors de revenus actifs. Quant aux revenus passifs, ils nécessitent un travail initial plus ou moins important. Il s'agit par exemple de droits d'auteur pour un écrivain ou de brevets pour un inventeur ou de revenus récurrents de contenu en ligne pour un formateur en ligne, etc. Après ce travail initial de création ou d'invention, que tu travailles ou pas, et même si tu n'es plus, l'investissement peut continuer à rapporter. Alors, sur les investissements, voici la question pour toi. Quelle est ton expérience en matière d'investissement? Que Dieu te bénisse et à la prochaine pour Oikonomia 3, deuxième partie, finance, point 3, donner l'argent.
Continuez d'étudier, pratiquer et partager la parole de Jésus-Christ jusqu'à son retour.